Beaucoup de choses se passent dans l'actualité. On va se le dire depuis le mois de janvier. On dirait que ça n'arrête plus. Salut, Denis.
Hello.
On est content de te voir. On parlait avec Valérie Beaudoin tantôt, qui nous parlait de Donald Trump et de tout ce qui touche présentement. Puis, tu sais, posons-nous la question. Est-ce que si Kamala Harris avait remporté les élections à tous les jours, ce serait du Donald Trump à côté, partout, tout le temps?
Non.
Ce serait du Kamala Harris, excuse-moi.
Non. Ce serait pas mal plus tranquille. On aurait eu une élection radicalement différente, par exemple.
Au fédéral du côté du Canada, je suis d'accord avec toi.
Je pense que c'est pas le même premier ministre qu'on a aujourd'hui. Moi, si Kamala Harris est présidente des États-Unis, quand on dit que Donald Trump a changé complètement la donne avec sa guerre tarifaire, puis tu sais, ils font ça des fois dans les univers des bandes dessinées, le « what if ». Puis là, ils partent sur un scénario X. Si Capitaine America était né en Russie, tu sais, puis qu'il devient Capitaine à Russia, tu sais, puis là, il invente un scénario, puis ainsi de suite. Quand tu fais ça dans le vrai monde, c'est toujours intéressant de voir tout ce qui peut découler de ça. Il y a une série de fiction, les auditeurs vont nous rappeler le nom, là, où on simule le fait que les nazis ont gagné la Deuxième Guerre mondiale avec le Japon, puis ils se sont séparés l'Amérique du Nord. Dans quel genre de monde on vit, dans quel genre d'univers on vit? Convaincu que si Kamala Harris est présidente des États-Unis, ben Pierre Poilievre est premier ministre du Canada.
Ah, il y aurait de grandes chances, effectivement. Revenons à nos moutons, revenons chez nous. Sam Ahmad a enfin annoncé quelque chose.
Incroyable, mais vrai.
La taxe sur l'immatriculation, ce serait terminé. Et il y a un slogan.
Oui, j'ai vu ça, la plaque de char.
Il a dit, on va faire un slogan. Plaque d'immatriculation, Ville de Québec. En dessous, complètement, c'est écrit « Je me souviens » comme toutes les plaques d'immatriculation. Et en plein centre, l'immatriculation de Sam Ahmad sur son char, c'est « J'ai mon 60$ ».
Ouais.
Donc, il l'abolit.
Pour aller chercher le 60$, est-ce qu'il va falloir aller au centre de foire avec nos coupons d'autobus ou ça va être plus simple? Je pose la question.
Denis, gestion avec rigueur.
Oui, je comprends, je veux bien. L'annonce, évidemment, ça va plaire. Je veux dire, 60$ de plus dans nos poches, tout le monde va dire merci. Maintenant, quand il a été questionné à savoir ce manque à gagner-là, on va aller le chercher où et comment?
Rigueur.
On retombe dans le vague, hein? On retombe dans le flou rapidement. On va checker ça, on va vérifier ça, on va couper au RTC, on va couper dans les dépenses de la ville, alors que la ville, elle, se défend présentement d'être en mode rigoureux au niveau de la gestion. Je pense pas que le RTC puisse en dire autant, là.
Non,
mais,
couper dans le RTC, c'est comme une bonne nouvelle en soi, là.
Ben, je pense que du ménage au RTC, ça, ça va toujours être bien accueilli, là, dans la situation actuelle. On a l'impression que le maire marchand les défend contre vents et marées, les défend contre l'indéfendable, des fois sur les choix qui ont été faits, puis ainsi de suite, sur le fait qu'il y a trop de cadres et peut-être pas assez de chauffeurs. Il y a plein de choses à faire au RTC. Est-ce que ça débloque des sommes d'argent, par exemple? Ça, je le sais pas. Et clairement, Sam Ahmad ne le sait pas non plus.
Oui, puis il a été irrité pendant la conférence de presse. Puis ça, s'il y a un message qui peut se rendre à l'équipe de Sam Ahmad, là, va falloir qu'il vive avec son passé et qu'il l'accepte.
Oui.
Puis qu'il accepte des questions. Comme celle qui a été posée ce matin, c'est du temps où vous étiez ministre des Transports sous le gouvernement libéral, ben, vous auriez pu indexer cette fameuse taxe-là qui était pour financer le réseau de transport en commun, que ce soit de la capitale ou un peu partout ailleurs au Québec. Puis là, lui, il dit ça, c'est du passé. Il a insisté sur le fait que son gouvernement avait laissé des surplus. Mais il faut qu'il réponde à ces questions-là. Pourquoi il ne l'avait pas fait? Puis tu sais, paraître irrité pour des questions qui sont normales de la part des journalistes, c'est la pire affaire que tu peux faire quand tu veux devenir maire de la Ville de Québec. Parce qu'on a un qui est constamment irrité quand on lui pose des questions qu'il met dans l'embarras. Puis c'est ça qu'on veut plus.
Yann, on voit ça exactement de la même façon. Quand on sent que quelqu'un en pouvoir commence à être irrité par les questions, on se dit, ben quitte la job.
Exact.
Faut pas que Sam Ahmad ait de l'air irrité de se faire poser des questions alors qu'il n'a même pas la job encore. Puis, ben franchement, à date, il n'a pas été cuisiné tant que ça, là, Sam Ahmad, là, ni dans les entrevues ici, ni dans les questions des journalistes, parce que veut, veut pas, ça prend de la matière pour poser des questions. Et Sam Ahmad n'a pas encore présenté beaucoup de matière. Il a présenté des beaux concepts de base, mais les grosses questions s'en viennent. Les questions difficiles sont pas encore arrivées. S'il est agacé de même au début de la game, je pense qu'il va trouver le tour de manège long, moi, jusqu'à l'automne.
Êtes-vous déçus, les gars? Parce que vous attendiez un vent de renouveau à Québec. Vous pensiez, mettons, que Sam Ahmad, c'était un bon candidat comme la majorité des gens à Québec.
Moi, je reste sur mon appétit présentement avec Sam Ahmad, pour être très honnête, autant dans les conversations qu'on a eues en onde que sur la suite du fait qu'il a officialisé qu'il allait se lancer. Moi, après ça, je pensais que ça allait aller beaucoup plus vite.
Parce que c'est encore une opération marketing puis ça s'en vient à l'automne?
Je le sais pas. Je me questionne légitimement parce que oui, il y a une annonce aujourd'hui, mais ce qu'il y a autour de l'annonce, pour moi, c'est encore très flou. J'ai hâte de voir plus de fougue du côté de Sam Ahmad, mais surtout plus de concret.
Ouais, puis tu sais, je veux être le plus honnête possible. Là. Moi, Sam Ahmad, je le vois à la ville de Québec. Okay? Mm-hmm. Fait que j'ai un billet. Okay? J'ai un billet.
Je l'aime beaucoup comme être humain. Ouais, tant qu'à ça, moi j'ai un billet humain envers Sam Ahmad.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai un billet parce que c'est là que je veux le voir. Je trouve qu'il ferait un bon maire à mes yeux. Puis il y en a d'autres aussi qui feraient des bons maires. Mais Sam Ahmad, je le vois là. Et là, ce que je comprends, c'est qu'il arrive avec un casse-tête. Un casse-tête qui est en morceaux et il demande à la population, ainsi qu'aux journalistes et aux maudits animateurs de radio de marde, acceptez le morceau que je vous donne aujourd'hui. Ouais. Ouais. Mais non, je ne donnerai pas le deuxième morceau qui va fitter avec celui-là. Je vais juste vous donner un morceau parce que je commence ma campagne. Puis quand les élections seront déclenchées, ben là, vous allez commencer à voir ce fameux casse-tête tout beau, tout plein et vous allez dire « Wow! Félicitations, Sam Ahmad! » Est-ce que c'est une bonne stratégie? Je le sais pas.
C'est parce que il reste une question de base. Puis ton illustration du casse-tête, c'est très bon parce que c'est morceau par morceau, oui, puis ça, dans une certaine mesure, les gens l'acceptent. Mais il y a une question, par exemple. Est-ce que Sam Ahmad a les morceaux, lui? Est-ce que Sam Ahmad pond les morceaux à mesure qu'il nous montre les morceaux du casse-tête ou il les a tous dans un sac? Puis je pense que tant que le doute va perdurer là-dessus, Yann, oui, c'est le fun de se faire dire que la taxe au chat, ça marchera plus, que la taxe à l'immatriculation, ça marchera plus, que les poils, ils vont arrêter de nous écœurer avec ça, qu'il va y avoir de la rigueur partout, qu'on va mettre le RTC, on va mettre de l'ordre là-dedans, le tramway, on va faire un no-go. Il y a plein de choses là-dedans que les gens veulent entendre, mais c'est quoi les morceaux de casse-tête? C'est quoi le casse-tête que tu nous proposes sur c'est quoi la ville de Québec que tu vas nous bâtir? Parce qu'il est là pour 4 ans qu'il nous dit, puis après ça, il s'en va. Quoique François Legault disait la même affaire au début des années 2010. Là. Mais s'il est là pour 4 ans, la ville qu'il nous laisse dans 5 ans, ça a de l'air de quoi?
T'sais? On va parler de François Legault tantôt. Mais
mon
moi,
Dieu, Seigneur.
J'ai adoré sa citation. Sa femme veut pas le voir à la maison avant 2030. Fait qu'il va se représenter.
Parce qu'il y a plus...
Il va encore plus frencher sa sœur.
Pascal! Franchement!
C'est une joke d'actualité qu'on m'a donnée sur un plateau d'argent lors d'élections.
Il l'a pas frenché, il l'a embrassé.
Ouais, il n'y avait pas de langue.
Fortement.
Mais cette fois-là, il n'y avait pas de langue. Après, on le sait pas.
Mais il n'y a pas rien que sa femme qui veut plus le voir jusqu'en 2030. Là. C'est un peu ça le problème.
Tu es en train de dire que le Québec au complet, ben, c'est le dernier
gang.
Sondage.
Mon épouse ne veut pas me revoir à la maison avant 2030. Ça, c'est François Legault.
Est-ce que ce serait un bon investissement que les contribuables lui payent un genre de bachelor pad, là, un chalet à quelque part? Là? Comme ça, il va pouvoir aller vivre là. Il ne sera plus premier ministre puis sa femme ne le verra pas avant 2030.
Ça va coûter pas mal moins cher que des investissements qu'il donne, par exemple, à ses amis pour qu'on puisse perdre encore plus d'argent.
Possiblement.
Sondage léger, le jour Journal de Québec et TVA, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de passer dessus, mais les réponses sont juste hallucinantes, là. Du moins les résultats. Tiens, comment réduire le déficit après la décote du Québec? Et là, tu as la grosse face d'Éric Girard qui est là, qui n'a pas de l'air certain de ce qu'il fait.
Il y a une face de décote.
C'est le genre de... T'as déjà été te promener, là? Ben avec ton linge, là, tu vas souvent te promener là, sur le bord de la bibliothèque Gabriel-Leroy.
Ouais.
Les gens veulent te donner de la monnaie. T'as-tu remarqué...
Faut pas que je m'arrête.
T'as-tu remarqué...
Si je m'arrête, je deviens riche.
T'as-tu remarqué les pigeons comme ils te regardent?
Ils ont pas peur du monde, eux autres.
Ah, je pensais qu'ils allaient sur son épaule.
Non, mais tu sais, ils te regardent, c'est comme pas certain si t'es un ennemi, un ami ou quelqu'un qui est un peu comme lui.
T'sais. Un colocataire.
Éric Girard regarde beaucoup l'économie québécoise comme un pigeon qui nous regarde à la bibliothèque Gabriel Leroy quand on passe.
Une phase de décote.
À la question, êtes-vous en accord ou en désaccord avec chacune des actions suivantes que le gouvernement pourrait choisir pour diminuer son déficit? Est-ce que, oui ou non, vous voudriez augmenter l'impôt pour les gens plus riches? C'est 72% des gens qui disent oui. Pour se sortir du trouble, il faut augmenter l'impôt des gens plus riches. Le problème étant qu'au Québec, les amis, On est très pauvre en riche et on est riche en pauvre en sacrifice.
Ouais, mais je pense qu'on voit pas plus loin que le premier niveau. Je suis un riche, moi? Non? OK, go! On va faire payer les riches, comme ça, moi, ils viendront pas m'en chercher d'autres.
C'est quoi être riche au Québec?
Ça serait une question de sondage intéressante.
Aller à l'épicerie sans regarder le prix des aliments.
Ouais.
OK, je suis pas riche. Toi, t'es-tu riche?
Est-ce que, qui est riche? Tipé au Subway, peut-être? on est-tu rendu là? Si tu tipes au Subway, t'es considéré comme fortuné?
Ça, c'est calme.
Je me souviens, quand j'étais très jeune, quelqu'un qui gagnait 100 000 $ par année, c'était quelqu'un
énorme.
Qui était très
ben oui.
bien nanti. Là.
Ben oui.
Puis
ben
aujourd'hui, ben, policiers, pompiers, des gens qui travaillent dans les assurances gagnent un genre de 100 000 $
par année. Mais c'est Patrimon qui est avec nous le mardi, là, Chronique ouais. Finance, qui disait que 100 000, c'est quasiment un genre de... C'est parce que c'est difficile à dire, là. Limite acceptable pour bien vivre au Québec en ce ouais. moment, mais on sait qu'il y en a tellement en dessous. Mais mettons, avec une hypothèque, avec un véhicule, avec une famille...
Il y a des auditeurs qui nous avaient écrit, dont un, c'était 170 000 le revenu familial. Il y avait une maison, deux voitures, trois enfants, puis il y avait de la misère à arriver.
C'est fou, là.
J'ai une question à poser aux auditeurs, juste pour voir si tout le monde va à la même place. À partir de quel salaire, vous autres, c'est riche pour le fun? 418-971-1021. La ligne commence
pas
où?
Pas un million gang, là. T'sais, un vrai exercice.
Non, elle commence où? Le point de départ. À partir de combien par année vous considérez une personne comme riche?
250 000 par année.
Dites-nous votre réalité, là. Êtes-vous célibataire ou avec une famille? Tu sais, ça aussi, je pense que c'est important ouais. dans la question que tu poses.
C'est vrai que si t'es célibataire, tu gagnes 250 000, t'es millionnaire.
Hey, sérieux, je suis gauche. C'est une tournée quotidienne.
T'es bien entouré.
T'es probablement puissant.
T'as une vie sexuelle hallucinante.
Wrong.
Mais c'est ça. Moi, c'est 250 000, toi, Pascal.
Avec ta famille?
250 000, tout simplement, par année.
OK. Ça serait moins. Je suis célibataire. Je suis toute seule. J'ai pas. 150, là.
150.
Riche.
Je le mettais à 300. Moi, c'est... Vois-tu, on n'est pas à même place personne. Ouais.
OK. Puis moi, j'aurais dit. Non,
mais on n'est pas à même place personne, mais on n'a pas le même contexte personne non plus.
Si tu vas demander à Elon Musk à partir de combien quelqu'un est riche, probablement qu'il est. Pas mal plus haut que nous autres.
Parce que
là,
ton 300 000, là, avec deux enfants, une hypothèque, etc., etc., j'endosserais.
Diminuer les subventions des entreprises. C'est une bonne solution, ça, pour diminuer le déficit?
Ben écoute, à la lumière de la dernière année où on a perdu beaucoup, beaucoup d'argent à investir dans des entreprises qui nous ont pété d'en face, c'est sûr que présentement, les subventions aux entreprises n'ont pas la cote. Puis les entrepreneurs qui font des investissements intelligents dans des entreprises intelligentes, malheureusement, vont être punis. Mais ça, c'est de la faute au gouvernement. Ils ont fait de mauvais investissements.
Au 88-971-1021, ça commence à rentrer. Les gars, on dit, j'ai ma maison, mon auto, pas d'enfants. 200 000, je commencerai à être riche. Après ça, j'ai un 300 000 qui est rentré. 250 000 par année. Peut-être pas riche, mais on vivrait très bien. Riche, il faut aller au-dessus de 500 000, selon cet auditeur-là. Mm-hmm. 150 000 en solo, ça commence à être solide.
Tu vois que c'est pas évident. Hein?
Non. 100 000 aujourd'hui et le 50 000 des années 90, ça nous a aussi donné.
Je suis d'accord
comme,
avec ça.
Ouais, ouais. Moi aussi.
Ouais. OK. Donc, diminuer les subventions aux entreprises, c'est la réponse la plus populaire avec 61 % pour diminuer le déficit. Moi, honnêtement, j'aurais pas mis ça. J'aurais dit non. Mais peut-être donner les subventions différemment, aider les PME qui sont le poumon du Québec plutôt que de donner de l'argent, des centaines de millions à des entreprises qui viennent de l'extérieur, tu sais, qui ne sont pas de chez nous et qui n'ont jamais rien bâti comme patrimoine ici.
Mais le message global de ce sondage-là, c'est « viens pas dans ma cour, viens pas me chercher de l'argent, va le chercher partout ailleurs, organise-toi, fais ton ménage, coupe tout ce que tu peux couper, mais moi, coupe pas dans mes services puis viens pas me chercher de l'argent de plus, je suis pas capable. » C'est un peu ce qui ressort de ce sondage-là.
Réduire les dépenses publiques, 60 % des gens ont dit ce serait un bon moyen. Réduire les déductions fiscales, 43 % ça commence à être intéressant, là, mes petits communistes. Privatiser certains actifs, sociétés d'État, parc immobilier, 43 % des gens ont dit oui, 36 % des gens ont dit non. Et de plus en plus, les gens commencent à s'ouvrir, exemple, à privatiser la SAC. Mm-hmm. Privatiser...
Ben, si on n'a pas les moyens, tu sais, on le dit depuis des années, puis n'importe quelle opposition avant de devenir le gouvernement, la CAQ étant l'exemple le plus récent et le plus évident, était ouvert à regarder ces choses-là. Mais dès qu'ils deviennent le gouvernement, ben sont un peu comme nous autres. Hein? Ils veulent pas renoncer à leur source de revenus puis ils veulent garder toutes leurs entrées.
Augmenter les taxes des cigarettes, essence, permis de conduire, 41 % des gens ont dit oui, 48 % des gens ont dit non.
Ça dépend si tu fumes puis si tu fais beaucoup de route.
Mais
c'est pas dans ma cour.
Mais c'est 50-50, hein? Les gens qui fument puis les gens qui fument pas. Moi, ça m'a fasciné, cette statistique-là.
Comment ça?
Parce que c'est...
Il y a l'essence aussi, là.
Les permis de conduire.
Je veux dire, il y a beaucoup de choses.
Ouais, c'est ça. C'est pas juste les tops.
OK, puis là, mettons que tu le regardes avec l'essence, c'est même un peu questionnable parce qu'on se dit que la majorité ne veulent pas plus de taxes sur l'essence. Fait que même là, la stat est bizarre. Mm.
Donc, autre moyen pour diminuer le déficit, diminuer les investissements dans les infrastructures de transport, c'est 64 % des gens qui ont dit non. Ça me surprend beaucoup. Parce qu'on met tellement d'argent dans les infrastructures de transport, comme le RTC, exemple, que j'étais persuadé... Ben, quand on dit qu'on a un billet, j'étais persuadé que ça allait être le contraire. Les gens trouvent qu'il y a beaucoup d'argent qu'on met là-dedans.
Mais il y a une question de timing aussi, là, parce qu'on vient de suspendre tous ces projets-là. Là. Moi, j'ai l'impression que ça a une incidence là, sur la réponse à cette question-là.
Oui, exact. Fait que c'est un sondage léger qui est paru ce matin dans les journaux de Québécois. Autre truc assez intéressant, François Legault qui a décidé de donner une entrevue à Stéphane Bureau que j'aime bien, qui fait son balado ou son podcast Contact. Là. Il a répondu à la fameuse ouverture là, sur le fait de faire passer des oléoducs sur notre territoire. Mm-hmm. Tu te souviens que dans le temps, quand on parlait de faire passer certains oléoducs, François Legault disait « Ouais, mais il n'y a pas d'acceptabilité sociale. »
Oui.
Et là, depuis que le géant orange est de l'autre côté, ça semble trotter dans la tête de François Legault de finalement, peut-être, effectivement, s'arranger pour que notre seul ami soit pas juste les États-Unis. On devrait être capable de fournir en pétrole ou gaz toutes les autres places de la planète si on en a de besoin.
La joke, c'est qu'il n'y a rien qui a changé. T'as pas plus d'acceptabilité sociale où il n'y en avait pas. Et où est-ce qu'il y en avait? Ben, il y en a encore. Puis, regardez la carte où passerait l'oléoduc, là. Tous ceux qui l'ont dans le pif sont contre. À une certaine époque, j'écrivais pour le volet Saguenay-Lac-Saint-Jean du Journal de Québec. J'avais une chronique par semaine, puis j'avais fait une chronique à un moment donné sur l'oléoduc. Man, la marde que j'avais reçue, là. Parce que je disais que j'avais tourné ça un peu en blague, que des fois, hein, quand c'était dans notre cours, personne n'était disposé à faire des efforts. T'sais. Si l'oléoduc passe dans le coin d'Arthabasca, au Saguenay, on est pauvre, on est bien content, on est bien correct. Mais là, vu qu'il passait dans le cours du Saguenay, tu avais plein de monde qui était contre. Il y avait un projet qui était sur la table à l'époque. Même me faire ramasser comme je me suis fait ramasser sur cette chronique-là, ces gens-là, il n'y a aucune acceptabilité sociale. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Mais c'est encore une fois un bel exemple de gouvernement qui « OK, je change d'idée sur quelque chose, je dis exactement le contraire de ce que je disais il y a 4 ans, puis le monde sont assez caves, ils vont nous suivre là-dedans. »
Mais les amis, puis répondez-moi, il y a peut-être des paramètres que je ne vois pas au 418-971-1021, mais Pascal, Denis, l'acceptabilité sociale, on peut la mesurer comment? Parce que tous les politiciens nous parlent d'acceptabilité sociale, puis des fois c'est oui, des fois c'est non, tout dépendant de quel gouvernement tu fais partie, puis tout dépendant ton linge est de quelle couleur.
Les sondages, c'est difficile aussi, ça dépend t'appelles qui, dans quelle région, à quel moment.
C'est ça, puis le sondage a été commandé par qui? Ça prend juste des référendums pour savoir s'il y a de l'acceptabilité sociale.
Ouais, mais si t'as un référendum, là c'est moins flou comment tu vas chercher ton acceptabilité sociale, puis je pense que les politiciens veulent pas vivre avec ça. L'acceptabilité sociale, des fois, c'est peut-être juste qui tu lis dans quel journal.
Et à qui tu jases dans ton entourage.
Ben oui,
mais
c'est ça.
Mais c'est quelque chose qui n'est pas palpable.
Non, mais tant que c'est flou, tu peux t'en servir et d'un bord et de l'autre. Mais donc, dès que tu as des chiffres et que tu as un score, t'es fourré un peu.
Voici ce que François Legault répondait à Stéphane Bureau sur les fameux oléoducs qui pourraient passer sur notre territoire.
L'acceptabilité sociale, ben là, on va en parler beaucoup parce qu'on va parler aussi d'oléoducs. Oléoduc de gaz, de pétrole. Est-ce que c'est pensable d'avoir un oléoduc qui passe au nord du Québec, qui pourrait déboucher, par exemple, dans le port de Sept-Îles? Il y a des projets comme ceux-là qui étaient impensables avant Trump. Mais là,
c'est une bonne nouvelle?
Bien, les Québécois se disent c'est pas vrai que Trump va contrôler le pétrole qu'on fabrique en Alberta. Donc, est-ce qu'on peut l'exporter en Europe en passant par le Québec plutôt que d'être mal pris avec Trump? Il y a une ouverture. Je sens que c'est en train de bouger.
C'est incroyable. On dort sur du gaz, on dort sur du pétrole. On prend le pétrole de l'Alberta puis des États-Unis pour subvenir à nos besoins. On crache sur le pétrole de l'Alberta. Puis là, à un moment donné, il y a un gros orange l'autre bord qui sème la pagaille puis ils se disent « Hey, ça fait des années qu'on dort. » pourrait peut-être les exploiter. On pourrait dire que si on les exploite, c'est à cause du méchant orange de l'autre bord!
C'est ça qui m'énerve. T'sais, moi, je suis pour qu'on exploite nos ressources. Oui. J'étais pour il y a 5 ans.
Oui.
Je suis encore pour aujourd'hui, mais l'espèce de parcours mental du Québécois moyen que François Legault improvise là, dans ce qu'on vient d'entendre, là, il n'a pas parlé à personne qui a dit ça. Là. C'est juste que là, on se rend compte de la nécessité. Faut changer le discours. Faut inventer des affaires. Tu refais le même sondage qu'il y a 6 ans. J'ai l'impression que les chiffres se ressemblent beaucoup plus qu'on veut le laisser croire ou le laisser entendre.
Stéphane Bureau lui a parlé de la fameuse décote du Québec là, par Standard & Poor's. Et François Legault avait ceci à dire.
Poor's nous a dit, d'ailleurs, le ministre des Finances me l'avait dit avant, si tu vas là, on va te faire décoter. Ben oui, mais c'est pas vrai qu'on va tolérer d'avoir des hôpitaux dans cette situation-là.
Ce que le comptable me dit, c'est que si on a eu une mauvaise note avec Standard & Poor's, c'est parce qu'on s'occupe bien des Québécois. C'est ce que vous me dites.
C'est qu'on a mis beaucoup d'argent, effectivement, en santé et en éducation. Puis c'est un choix qu'on a fait. Puis c'est un choix où on savait qu'il y avait un risque de décote. Mais pour moi, c'était le choix à faire.
Voilà. Fait qu'il s'attendait à ce qu'il y ait une décote avec les décisions qu'ils ont prises. Problème étant qu'avec une décote, c'est des intérêts supplémentaires que les Québécois vont payer. Et avec cet argent-là supplémentaire qu'on va payer, qu'on va envoyer ailleurs, on aurait peut-être pu se payer des infrastructures qui ont du bon sens.
Cet argent-là là, qu'on a investi massivement en santé et en éducation, avez-vous vécu la différence?
Pas du tout.
Est-ce que notre système d'éducation est meilleur qu'il était il y a 5 ans?
Je vais en parler tantôt avec Pascal Paradis. J'en ai parlé avec Joseph Monsef de Ragy hier dans Mars au soir, que j'aime bien aussi, tout comme M. Paradis. C'est hier ou avant-hier, Denis, j'ai vu un appel d'offres qui avait été remporté par une entreprise. Puis la job de l'entreprise, c'était de vérifier si la clôture en tôle qui avait été fixée sur l'hôpital réussissait à tenir toutes les briques.
Un hôpital.
T'as peu, là. On a pensé à mettre une clôture en tôle pour retenir les briques. On a-tu pensé à refaire la brique?
Imagine-toi que tu visites une maison. Hein? Tu visites une maison, puis t'arrives sur le mur arrière.
Pas je visite ta maison, puis essaie de me convaincre de l'acheter.
Ouais. Ben là, tu te dis, c'est quoi ça? Hey, ça, là, je t'explique. Ça, c'est un trou, OK? Il y a des écureuils dedans,
oui.
OK? Uh-huh. Puis le trou, ben tu me connais, je suis pas très manuel. Fait que j'ai mis une feuille de tôle.
Uh-huh.
Puis à date, là, ça fait 2 semaines, ça tient. Il y a un trou, il y a des écureuils, il n'y a plus de briques. Mais j'ai mis une feuille en tôle. Puis à date, on a eu des vents, là, une journée, deux journées, là, ça a shaké un peu, mais ça a tenu. T'es-tu intéressé à acheter ma maison?
Hey, regarde, ta maison est franchement intéressante. J'ai une couple de visites à faire. Mais je te redonne des nouvelles. Pascal.
C'est comme en 2022, quand il y avait sorti le genre de standard avec les cotes de toute la tournée qu'il avait fait sur les écoles du Québec. Et qu'on avait dit qu'il y avait plus de 50% des écoles du Québec qui étaient dans un état de vétusité avancée. Ça m'avait fait rire parce qu'après ça, le ministre de l'Éducation était sorti en disant « Ouais, mais même si, mettons, c'est très haut dans la cote, c'est quand même plus bas parce qu'on a été plus sévère dans la façon dont on faisait les visites. » Puis ça, c'était gênant, là.
Il y a une affaire, par exemple, puis on en a jasé un peu avec Élise Berger-Pelletier, urgentologue, hier dans Le Retour. C'est que derrière l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il y a des dizaines et des dizaines d'hôpitaux qui ont besoin de rénovation. C'est pas aussi pire, là. Les écureuils et les fourmis n'ont pas pris le contrôle de la place.
Non, mais peut-être dans 10 ans.
Mais derrière la pire, il s'en cache des horribles. Puis c'est un peu ça dans le système d'éducation aussi, quand tu parles de la qualité des bâtiments et tout ça. T'sais, là, c'est rendu un freak show avec Maisonneuve-Rosemont, mais il y a plein de gens qui travaillent dans plein d'hôpitaux scrap qui se disent « Hey, nous autres, notre tour n'est pas sur le bord d'arriver. Hein. »
Ouais. Là, c'est rendu que tu te dis, je pourrais-tu aller me faire soigner à Cuba? Je pourrais peut-être avoir un meilleur environnement pour me reposer. Rémi Nadeau, qui est analyste dans le Journal de Québec, parle des raisons de François Legault de partir. Les coffres sont vides. Il n'a pas aimé faire campagne la dernière fois parce qu'il y avait une multitude de questions, exemple à Québec, sur le troisième lien, sur le tramway. Il a détesté ça. Son entourage est dégarni. Il y a plein de gens qui ont quitté le bateau pour partir parce qu'on voyait que la coalition Avenir Québec n'avait pas d'avenir aux prochaines élections. Puis il parle d'un essoufflement après 7 ans de mandat.
Écoute, moi, avant de savoir que sa femme voulait plus le voir, je comprenais pas le pourquoi de l'acharnement. Non, mais c'est vrai, quand tu regardes la feuille de route, il n'y a aucune raison pour François Legault de s'acharner médicalement sur son statut de premier ministre. C'est fini, c'est mort. Il va se faire laver aux prochaines élections. Pourquoi il reste?
À moins qu'il y ait des informations au sein de son parti qui confirment qu'il va être capable de donner un nouveau mandat extraordinaire, mais impossible. C'est un petit peu, ouais, c'est ça. C'est
actuellement,
un petit peu dur à croire.
Actuellement, il n'y aurait personne pour le remplacer. Bien que certains pensent qu'ils peuvent le remplacer,
non, Bernard Drinville
doit penser à ça, à être sur la liste.
Absolument.
On a Geneviève Guilbeault qui doit penser à ça. On a Simon-Jolin Barrette qui doit penser à ça. Puis il y a peut-être des gens à qui je pense pas présentement qui pourraient y penser, mais lui, dans son cas, semble pas voir de dauphin présentement.
Mais c'était son rôle de les préparer. Je sais pas comment vous voyez ça, mais...
Ben, il a fait l'inverse. Il s'obstine, exact. Il s'acharne, puis ça fait en sorte que tout ce qui beurre le gouvernement beurre les successeurs aussi. Là.
Il chicane avec eux.
C'est ça. Dans la liste que tu viens de faire, tout le monde a été beurré là, par la mauvaise performance de la CAQ. Là. Il est trop tard. T'sais, c'est des gens qui auraient dû commencer à sortir graduellement, que François Legault, lui-même, aurait mis de l'avant. Mais là, c'est un peu plus l'inverse. T'as l'impression qu'ils ont tous rassis à un moment ou à un autre.
S'il a manqué de leadership auprès de ses comparses, est-ce qu'il en manque encore plus auprès du Québec puis de la province?
C'est, je veux dire, la fiche de route parle d'elle-même.
Le résultat est là, effectivement. Denis Gravel, merci.
Hey, thank you, Zemi.
Après la pause, on reçoit Pascal Paradis, qui est le député du Parti québécois. On revient.